Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Vincent Delerm. Depuis son enfance jusqu'à son dernier album Panorama, on passe en revue sa fascination pour le live et d'où elle vient, ses débuts au piano à l'adolescence jusqu'à son premier spectacle à l'époque où il était à la fac. On discute aussi de ce parcours très singulier en 20 ans de carrière, de la caricature de chanteur un peu boring qui lui vient de ses deux premiers albums d'après lui, mais aussi de son attrait pour l'image, la photo et ce film qu'il a réalisé l'année passée, notamment avec Jean Rochefort. Bref, c'était vraiment un entretien super, merci beaucoup à Vincent pour sa disponibilité et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Dans tous les cas, merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire du succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Vincent Delerm.
C'est marrant parce que en venant, je réécoutais le « À bientôt de te revoir » avec Sophie Marie où il te fait parler.
Oui. C'est bien ça. Elle est folle, elle.
Elle te fait parler de vin d'honneur et t'as l'air vraiment extrêmement perturbé.
Ah mais j'aime bien. Non mais j'aimais bien faire cette émission, elle est super. Après il y a des fois, elle te lance sur des trucs et elle voit si tu suis.
Ouais.
Je me souviens de ça, ce passage-là, j'ai dit oh, bon là je vais pas pouvoir faire long, mais il y a plein d'autres trucs où tu c'est génial parce qu'en plus comme c'est en public, c'est marrant à faire pour ça aussi.
Ouais. Bon, on est avec Vincent Delerm. Salut Vincent.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir dans Histoire de succès.
Avec c'est plaisir.
Cool. On va reparler un petit peu de ta vie, de ton parcours, de ton succès. Voilà.
Ça va être vraiment intéressant, tu sais.
J'espère. Je crois que oui. La première question que j'aime poser à mes invités, c'est à quoi ressemblait Vincent quand tu avais 7-8 ans?
Ah, écoute, j'étais assez palo, je crois. je crois que c'est ma mère qui me coupait les cheveux. J'avais des vêtements à moi parce que je n'avais pas de grand frère ou de grande sœur.
Ah,
très important. C'était une chose bien. Ouais. Écoute, et puis sinon, non, j'étais quand même très très branché déjà sur l'idée du spectacle en fait. Mes parents m'ont traîné assez tôt aussi, sûrement parce que j'étais fils unique, dans voir des trucs, des spectacles et tout ça. Puis on vivait en Normandie dans un petit village où mes parents avaient été nommés profs, et c'était des Parisiens mes parents.
Ouais.
Quand on est nommé prof en Normandie. Ils écrivaient des bouquins, enfin mon père écrivait des livres par ailleurs, ma mère faisait des albums pour enfants, aquarelliste. Et du coup, ils n'étaient pas publiés à ce moment-là, donc c'était leur rêve de faire ça. Mais en étant dans ce village, ils se sont rendus compte que la vie était pas très chère, qu'ils pouvaient être prof une partie du temps, faire leur truc ailleurs. Mais bon, voilà, tu vois, c'était une ambiance comme ça. Donc quand ils avaient allé voir un spectacle, il n'y avait pas trois babysitteuses possibles et machin, donc ils m'emmenaient. Donc très tôt, et ça me faisait de l'effet, quoi, tu vois, et même je faisais de photos de moi, que mes parents ont fait, où on est soit sur le chemin du cirque, ou en allant voir un chanteur, et que j'ai les joues toutes rouges, tellement ça me fait quelque chose, ouais, d'être dans une salle, d'attendre le spectacle, et aussi, du coup, par rebond, j'ai fait souvent des trucs où je rejouais le spectacle quand on revenait chez moi, tu vois, où je le faisais soit devant la glace, soit aussi j'étais un peu le plus grand d'une bande d'amis, enfin mes parents avaient des amis là-bas, et j'étais un peu le plus grand du groupe d'enfants, donc je menais les choses un peu, tu vois, je disais bon bah toi tu vas faire ça, et à un moment donné on disait bon ça y est le spectacle est prêt, tout le monde peut venir, mais ça comptait pour moi, c'est très, très tôt ça s'est décidé, ouais.
Ok, tu jouais déjà du piano, comment t'es venu au piano?
Non.
Un peu plus tard?
Ouais, la musique. Non, vraiment plus tard en fait. Le modèle un peu de justement qu'il y avait chez moi, c'était un modèle un peu baba cool qui était de dire on n'apprend rien à un enfant parce que c'est le modèle bourgeois, un enseignement, que ce soit le conservatoire ou le je sais pas n'importe quel club ou machin, c'est lui qui décidera s'il a envie. Ça c'est quand même un modèle très 70s, tu vois. mais qui a vachement marché sur moi, parce que du coup, j'ai pas du tout appris la musique. Et vers, enfin, quand j'étais en seconde, j'ai découvert, en tout cas, j'ai été vachement frappé par des gens qui chantaient au piano, notamment l'album de William Scheller, en solitaire. Et je me suis dit, mais tain, ça a l'air magique, quoi, de jouer d'un instrument. Mais cette sensation-là, autant le fait d'apprendre à jouer, bon, ça, tu peux le faire à n'importe quel âge, mais le fait de se dire à 15 ans, ça doit être fou, parce que, en fait, tu sais pas du tout en jouer. Et en fait, peut-être ça s'apprend. Ça, c'est une sensation qui est irremplaçable, et je remercierai toujours mes parents de pas m'avoir obligé à faire du piano plus jeune, parce que par la suite, quand tu fais des concerts au piano, les gens viennent te voir après et disent, ah, c'est super, je joue du piano, mais moi j'en ai fait 3 ans, j'en ai fait 7 ans, j'en ai fait 9 ans et demi. Ils s'en souviennent comme ils te diraient bac plus 4, quoi, tu vois. Ça les a tellement gonflés qu'ils savent le nombre d'années qu'ils en ont fait, tu vois, ce qui est très très mauvais signe quand même. De dire, ah ben, j'en ai fait 8 ans, c'est pas... Donc voilà, donc j'ai appris à 16 ans.
Tu es venu par toi-même de ce fait-là et t'as appris toi-même. Est-ce que, en fait, le fait d'avoir cette envie-là, cette pulsion-là, à un moment donné, t'as quand même pris des cours, alors t'as appris tout seul?
Ouais, j'ai pris des cours pendant un an. J'avais une vieille bourge très sympa dans mon village, qui était une ancienne prof de conservatoire de Rouen et qui était très... que j'adore, hein, que Madame Bruyère... j'espère qu'elle n'entendra pas que je l'ai traité de vieille bourge, mais elle a cet humour pour en rigoler, parce que elle a ce truc un peu de, évidemment, d'un code bourgeois, mais aussi d'une fantaisie. Comme ça, quand je venais chez elle, elle était très, s'enroulait un peu dans les rideaux, parce qu'en fait, elle avait compris que je voulais faire des, j'apprenais quand même pendant un an à jouer des partitions et tout ça, mais fondamentalement, je voulais faire des musiques à moi, et donc à chaque fois, elle me disait, bon, alors Vincent, est-ce que t'as fait une nouvelle mélodie? Et je lui jouais, et tout de suite, elle emboîtait le pas de la mélodie, tu vois. J'avais joué 2 accords et elle commençait à fredonner par-dessus, un peu de confiance, quoi, tu vois. Mais c'était hyper, hyper gentil, hyper mignon. Et en même temps, moi, ça fait que je me censurais pas, que je pouvais lui montrer, évidemment, que elle ressemblait pas tellement au public que je visais à terme en faisant de la musique, tu vois. Mais je la remercie beaucoup pour ça, parce qu'elle était, il y a des gens qui te castrent, à l'inverse, qui vont te dire, ah non, mais ça, tu peux pas te permettre de faire ça. Elle avait compris le truc, elle avait vu où je voulais aller, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était jouer des chansons des autres et écrire des chansons, moi.
Comment t'en es venu à faire, avoir justement, donc j'entends ce coup de cœur pour William Scheller, j'ai lu aussi Michel Berger, enfin voilà, tous les pianistes.
Exactement.
Et te dire à un moment donné, ok, mais en fait, une fois que tu sais faire les trucs toi-même, après, tu peux créer tes propres mélodies. T'avais déjà cette...
Écoute, j'avais l'impression que le piano, c'était quand même une situation, une position. Tu vois, je voyais Barbara, je voyais aussi des gens qui jouaient des deux, genre Paul McCartney, par exemple. Les moments où il se met au piano, je me disais, ah putain, c'est ce que je préfère. Ou Simon et Garfunkel, le titre que je préférais, c'était Bridge Over Troubled Water, qui est très pianistique, qui est un des premiers trucs que j'ai appris à jouer. Et finalement, dans ce qu'il faisait, c'était le seul morceau piano, tu vois, le reste, c'est très guitare. Et donc, je me disais, ah non, mais en fait, je crois que c'est vraiment net, quoi. Je préfère, à chaque fois que c'est au piano, ça me fait un truc. Et puis, il y a eu, effectivement, à ce moment-là, l'attitude de Berger. Il y avait un chanteur qui s'appelait Robin Didier, que j'aimais beaucoup aussi, qui était pas connu, mais qui était un, que j'avais un enregistrement en public de lui. Et alors, cet enregistrement, c'était sur une cassette. Et je me souviens que...
Pour les jeunes...
Ouais, mais alors, parce que ça joue sur ce que je vais dire, le fait que ce soit sur cassette. C'est qu'en fait, sur une cassette, donc t'avais 2 faces. Et à la fin de l'exploitation de la cassette, il y avait donc des appareils qu'on appelait des Walkman, avec la fonction auto-reverse, qui faisait que tu n'avais pas besoin d'ouvrir la boîte pour retourner la cassette. Et donc, quand j'arrivais à la fin de la première chanson, c'était les premiers applaudissements du spectacle, si je faisais reverse à cet endroit-là, ça atterrissait sur la toute fin du concert, sur l'autre face. Il y avait une différence telle d'énergie, d'applaudissements entre ce qui se passait à la fin de sa première chanson et ce qui se passait à la fin de la 28e, en gros, que je me disais, mais c'est dingue, quoi. Tu peux prendre des gens, c'est très calme au début, et en fait, tu les renverses et tu mets une sorte de truc qui monte. Et évidemment que ça se fait pas comme ça, ça se fait aussi sur le fait de faire rentrer les gens dans une logique, dans un climat et tout ça, et ça m'a toujours fait de l'effet, ce truc-là, et ça me sert encore, parce qu'évidemment, pour être franc, il y a des concerts aussi où tu rentres et où c'est déjà un peu le feu, parce que les gens avaient envie de te voir et tout ça, et puis tu fais aussi des fois des théâtres où il y a beaucoup d'abonnés qui connaissent pas forcément ta musique, qui sont un peu venus là pour voir ce que c'était, pour pouvoir en parler, Et donc, c'est assez frais quand tu arrives sur scène. Et donc, tu te dis, bon, allez, si tout se passe bien, je peux faire comme sur la cassette et qu'à la fin, tout le monde soit à bloc. Mais ça, c'est. Voilà, ça comptait.
Et aujourd'hui, ça te plaît en fait de retrouver un public qui vient pas te voir spécifiquement là. Tu dis où justement c'est un peu frais et tu dois les. C'est un challenge un peu de les conquérir et de te dire.
De toute façon, faire des concerts, c'est un jeu de société quand même. C'est un truc où t'arrives, t'as une situation donnée. C'est comme si on t'avait distribué des cartes. Tu dis bon bah j'ai ce jeu là ce soir et il faut que j'en fasse le meilleur usage possible. Donc honnêtement, je pourrais pas faire que des trucs abonnés parce que c'est un peu. Agréable quand même d'arriver sur une scène et qu'il y ait plein de gens qui ont envie de te voir depuis très longtemps, machin. Mais en même temps, par contre, ça te rééquilibre un peu de temps en temps de te dire ah oui, mais en fait, il y a aussi des gens qui connaissent pas du tout, qui se disent que ça va être chiant, que machin. Donc le mélange des deux, je l'aime bien, ouais.
Ok, on reviendra un peu après sur justement la mise en scène parce que j'ai un peu l'impression que c'est important dans tes lives.
Ouais.
Là, on était à peu près, t'avais 15-16 ans, c'est ça? Comment ça se passe le lycée pour toi?
Mais bien, je te remercie. Écoute, j'ai jamais été tellement premier de la classe, mais je savais à peu près me maintenir au milieu, quoi. Voilà, j'étais pas assez vite quand même. Je me disais que j'avais envie de faire du théâtre, j'avais envie de faire de la musique, et que ce que je voulais rêver de faire, en tout cas dans ma vie, ça passait pas par ce que j'allais obtenir en diplôme. Et j'y croyais pas trop. Et du coup, j'avais pas du tout envie de me laisser. Enfin, je sais pas, j'avais pas envie que ça prenne trop de place, y compris dans le côté, du coup, tu te laisses décrocher et tu passes un temps fou, tu repiques ou je sais pas. Donc,
comment tes parents profs, ils vivaient ça?
Mes parents, ils étaient très, très, très cool là-dessus. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de parents profs qui sont assez relax là-dessus. Hein.
Ouais.
C'est plus... Bon, après, t'as tout. De toute façon, dans les profs, t'as un peu de tout. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que t'as des profs que t'as adorés et des profs que t'as détestés. Donc, t'as des profs qui changent ta vie dans un sens, d'autres qui la changent dans le mauvais. Pour moi, ça veut évidemment que ça dit un truc, le milieu prof, mais j'ai tellement connu dans l'enfance ce truc. Moi, plus jeune, enfin quand j'étais tout petit, mes parents faisaient des clubs à la maison avec leurs élèves et à chaque fois ils me disaient mais la chance que t'as, ton père c'est mon prof, c'est le prof que tout le monde veut avoir, pareil sur ma mère. Donc je me disais bon bah c'est super en fait, c'est un métier qui a l'air d'être vachement aimé. Et puis après je me suis rendu compte que c'était pas si simple, mais oui, ça c'était quand même une chance, c'était qu'il faisait partie des profs hyper populaires, qu'il faisait faire plein de trucs. Mon père faisait le club foot, ma mère club théâtre, club dessin. Et puis au-delà de ça, ils avaient un truc, une manière de faire partager des choses qu'ils aimaient, de donner envie d'écrire. Et ça a vraiment été des profs comme ça, quoi.
Tu fais du théâtre, c'est ça, au lycée donc?
Ouais. Ouais, je fais du théâtre même dès le collège, mais au lycée, je joue dans un. Je vais au lycée de Bernay, qui est la sous-préfecture de l'Eure, en Normandie. Et là, il y a un théâtre dans lequel on a la chance de jouer quand tu fais le club théâtre du lycée, qui s'appelle Le Piaf, qui est un ancien cinéma.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et là, c'est un peu une révélation parce que je me rends compte en arrivant sur le... Donc, il y a chaque fois un spectacle à la fin de l'année, vers le mois de juin, les trois années de Bahut. Et je me rends compte que quand même les gens qui sont avec moi, ils ont tendance à se dire oh là là, il faut surtout bien retenir le texte et puis faut tout de suite le dire. Et moi, enfin ça va paraître prétentieux ce que je veux dire, mais j'avais le sentiment que j'étais hyper à l'aise et que je pouvais prendre mon temps, que je maîtrisais la situation, que je pouvais faire des silences, que ça faisait marrer les gens. Et ça c'est super parce que par la suite tu peux évidemment te perfectionner, prendre des cours ou jouer jusqu'à devenir meilleur, mais il y a quand même un peu un truc de chance au départ d'être à l'aise ou pas sur une scène et de sentir que c'est ton endroit. Mmh. Et ça, c'est très, très vite, je l'ai senti. Et c'est un truc que tu sais pas avant de le faire en public, quoi. C'est pas pendant les répétitions que tu t'en rends compte. C'est au moment où ça se joue. Et ça, c'était vraiment, ouais, c'était c'est des grands souvenirs pour ça, ouais.
Et ça devient d'où, alors, ce truc assez naturel, tu penses, avec le recul de... C'est pas du tout naturel, hein, de se retrouver sur une scène avec plein de yeux qui sont braqués sur toi.
Ah, plein de vieux. J'ai compris, plein de vieux.
Plein de vieux.
Parce que je disais, bah non, il y avait que des lycéens. Il y avait tout l'internat. Oui, c'est pas naturel, mais pour moi, c'est pas vraiment un truc qui s'explique, quoi. C'est comme les gens, ils savent faire bouger leurs oreilles ou pas. Enfin, tu vois, il y a un truc, non, mais il y a un truc, des fois, la vie, c'est un peu injuste aussi. Tu sais pas pourquoi t'es bon à un truc, t'es maladroit. Je le vivais un peu comme ça. Après, si je devais trouver une raison, comme je te disais, j'ai passé pas mal de temps très tôt à adorer le spectacle et peut-être que j'ai imbibé un truc, ingurgité un truc malgré moi sur les timings, sur la manière de tu vois, les chanteurs, quand t'écoutes beaucoup d'enregistrements en public, ils ont une manière de dire merci ou de relancer la chanson suivante en prenant la vague des applaudissements. Ça compte beaucoup. Quand t'es surtout sur des énergies comme ce que je peux faire qui est régulièrement autour du piano-voix, même si des fois il y a d'autres musiciens, tu dois beaucoup t'appuyer sur le fait de prendre les tempos, prendre la vague des applaudissements et démarrer juste comme il faut. Parce que sinon, ça peut être un spectacle qui est trop lent ou qui est, enfin, si tu veux avoir une petite électricité là-dedans, ouais, t'es obligé d'être assez précis. Et c'est marrant à mettre en place.
T'écoutais beaucoup de concerts, tu parlais tout à l'heure,
oui,
justement, de ce fameux.
J'adorais ça, ouais. Ah, okay. Ouais. J'adorais les concerts, y compris des gens qui avaient un peu disparu. Et je me disais, mais putain, mais c'est fou quand même, ça cartonnait ce truc-là. Et maintenant, plus tellement. Donc ça veut dire quoi, ces gens qui sont à fond en train de faire un rappel? Je me souviens d'un enregistrement de Jonas comme ça qui me faisait de l'effet. Et je me disais, mais ouais, c'est quand même. Ça m'a un peu fabriqué aussi, cette idée que tu peux avoir des gens qui sont à bloc de chez à bloc, et en même temps, 12 ans après, qui disent « Ah oui, non, maintenant, j'aime plus trop, quoi. » Donc, ça permet d'avoir un peu de recul quand tu débarques.
Tu veux dire qu'ils aiment plus trop le live le,
non, ils aiment plus trop le chanteur. Je veux dire, ils vont pas se déplacer, ils vont se dire « Ouais, j'adorais quand j'avais 21 ans, mais là, tu comprends, je viens d'avoir mon deuxième enfant, donc avec ma nana, on sort plus trop. » Enfin, tu vois, c'est... Et c'est piégeux parce que quand tu vois des gens à fond devant toi qui se lèvent comme un seul homme pendant un spectacle et tout, t'as l'impression que mentalement tu peux pas t'empêcher de penser qu'ils vont rester là toute ta vie. Et en fait, c'est un match à chaque fois qui recommence, à chaque fois que tu fais une tournée, un album. Et, voilà.
Et tu le vis comment aujourd'hui? Alors après, ça fait combien presque 20 ans de carrière là que
ouais. Bah, ça c'est génial parce que justement, moi c'était ma hantise, c'était que le truc s'arrête. Et ça, ça a été fou parce que qu'on puisse toujours faire les spectacles exactement comme on a envie de les faire, avec une liberté totale, que les gens suivent, que j'ai pas tellement besoin d'être omniprésent à la télé, et du coup, ça fait un truc qui est assez super parce que il y a d'un côté des gens qui viennent, il y a toujours des nouvelles personnes, mais il y a quand même un noyau dur aussi. Et donc les gens qui sont au concert disent « Ah putain, c'est fou, il y a une super ambiance, machin. » Et puis les gens qui viennent pas, qui se disent « Ah, ça doit être un peu chiant, le mec est un peu austère et tout ça. » Et ça fait que dans la vie, on me laisse vraiment peinard, sauf si on a un truc à me dire. C'est-à-dire que les gens qui viennent me parler, c'est jamais pour me dire « Bon, je connais pas ce que vous faites, mais j'aimerais bien faire un selfie. » Ça, ces gens-là, ils viennent pas me voir. Ils disent « Oulala, lui, non, c'est pas... Je vais plutôt demander à Sophie d'avant. » Mais par contre, si les gens viennent te parler, c'est qu'ils ont, ils vont te dire cette chanson-là a compté pour moi, ou je vous ai vu en concert à tel endroit. Donc finalement, c'est le truc un peu idéal. Même si je l'ai pas voulu comme ça au début, parce qu'au début t'es un peu choqué, tu te dis bah c'est marrant que les gens aient cette image-là de moi, alors que c'est pas comme ça. On va essayer de modifier ça. Et puis maintenant en fait non, j'ai un peu laissé. Tomber ce truc-là, mais ceci parce que j'ai la chance qu'il y a pas mal de gens qui viennent voir les spectacles et tout ça.
Elle te venait d'où, tu penses, cette image de, justement, de chanteur austère, quoi?
Ah, des deux premiers disques, parce que ils se sont beaucoup vendus, et que du coup, ça m'a fait faire des émissions que je trouvais pas bonnes, et que je me tenais un peu avachi, que j'avais un peu l'air de me demander ce que je foutais là, comme en plus, je chantais de manière très particulière, et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais c'est qui ce branleur? Enfin, tu vois. Et puis d'un truc de tournure d'esprit aussi, parce que qui se dissipe quand tu passes du temps avec quelqu'un. Si t'écoutes une émission de quelqu'un pendant une heure, tu t'en ressors en ayant une vision assez précise. De même que si tu vois un spectacle de quelqu'un, il n'y a pas de malentendu. Par contre, sur 3 minutes 30, ou pour peu que ce soit un peu de l'humour à froid, comme des fois peut-être j'ai fait, ou enfin tu vois, où t'as plus un truc de pas délit de sale gueule, mais quand même aussi un petit peu, quoi, de se dire ah non, lui je le sens pas. Et donc voilà, mais ça c'était beaucoup lié au premier disque où il y avait aussi beaucoup de références culturelles plus que ce que j'ai mis par la suite. Donc il y a des gens qui sont un peu bloqués là-dessus. C'est l'époque aussi où tu te fais beaucoup imiter parce que dès que t'existes, donc t'as Laurent Gérard qui fait ton imitation, t'as des enfin t'as tout quoi, t'as tout le kit, donc voilà, donc c'est marrant, ça a décidé de ça un peu, oui.
Ok, je comprends. C'est sûr que si tu vas à la télé, il faut jouer les codes de la télé, sinon.
Absolument. Ouais. Absolument, sinon ça fait un peu ouais, mec qui se croit au-dessus de ça, mais moi il y a des fois où j'y allais parce qu'on m'avait dit bon bah là demain tu fais ça, et t'es là, tu dis mais t'es navré quoi, tu vois le truc. Et puis t'as aussi beaucoup quand même au début, là c'était au début des années 2000, un truc avec des chroniqueurs qui arrivent, qui font toujours la même soit imitation, soit la même parodie, qui vont te faire un... Alors moi c'était toujours, hier soir j'ai ouvert mon frigidaire, j'ai pris un petit Suisse, et puis... Et donc toi tu dois faire semblant de trouver ça hyper marrant, sinon ça veut dire que t'as pas d'humour sur toi. Donc t'es là à prier que le mec qui fait ton truc marrant soit vraiment marrant, ce qui arrive. Je me souviens d'une fois de Thomas VDB par exemple qui a fait un truc vraiment drôle. Et là, t'es soulagé parce que tu peux vraiment te marrer du truc en train d'être fait. Mais sinon, tu peux pas faire semblant de trouver un truc marrant juste pour qu'on dise que t'as de l'humour sur toi. Ça, physiquement, ça marche pas en fait. Ça se voit trop.
Ça
quoi.
Se ressent.
En tout cas, moi, je suis pas capable de jouer ce jeu-là, de faire semblant de ça. Donc, bon, il y avait ce truc-là au début. Mais c'était une époque aussi où, début 2000, il y avait la chanson, ce genre de chanson, c'était très, très, très présent. Et voilà.
Ok. Pour revenir un peu à ton histoire, post-bac,
J'aime parler de mon cursus.
Non, mais tu fais des lettres modernes, c'est ça, donc tu.
Ouais, ouais. Je me souviens d'un truc de même, tu sais, le truc qu'on te fait faire en terminale, tu vas au centre d'orientation là.
Ah.
Et derrière, il y avait ça dans un spectacle de François Morel. Il parlait de. Il disait ma cousine, comme elle savait pas du tout quoi faire comme métier dans la vie, elle est devenue conseillère d'orientation. Je trouvais ça pas mal. Écoute, ouais, je pars à Rouen. En fait, c'était la ville à 50 km de chez mes parents. Et très tôt, ils m'avaient dit sans doute que tu iras là quand tu seras étudiant. Donc, quand j'étais plus jeune, on allait des fois à Rouen, tu vois, pour faire des courses ou comme font tous les gens qui vont dans une grande ville et qui habitent à la campagne. Et donc, je regardais les appartements, je voyais des petits couples et tout. Je me disais, bon, plus tard, je serai là. Je serai amoureux d'une fille dans un appartement comme ça. Rouen, c'est une ville très. Avec vraiment une ambiance que moi j'adore, mais qui est très particulière. C'est assez bas de plafond, il y a des colombages, il y a tellement de colombages et tout que même tous les étudiants ont des appartements comme ça. C'est pas du tout réservé à un truc bourgeois, c'est vraiment, il y a quasiment que ça. Et donc voilà, donc j'arrive à la fac. Enfin non, pour être franc, j'ai fait une année d'hypocagne, une année de prépa lettres. En me disant, tiens, au moins là je vais apprendre un peu, ça va faire un peu le si tu veux, le lien entre le lycée et la fac est un truc un peu scolaire comme ça, un peu dur, même si c'était qu'une hypocagne à Rouen, c'était pas non plus Henri IV, mais quand même, déjà, j'en bavais, quoi. Je me souviens que j'arrivais plus du tout à faire du piano, plus du tout à faire du théâtre, j'avais plus le temps de rien. J'ai un souvenir d'un soir en prépa où je suis à Rouen et je me dis, putain, mais j'ai rien à faire ce soir, il n'y a rien à faire comme à rendre demain, tu vois. Bon, bah, je vais à la Fnac. Je m'achète un album de Renaud en public, tu vois, toujours un petit truc en public, qui s'appelle Visage pâle rencontré public, je crois. Et je rentre chez moi et je l'écoute sur mon canapé toute la soirée en me faisant je sais pas quoi, une boîte de conserve. Et je me dis, putain, mais c'est génial, quoi. C'est là, ce soir, j'écoute tout un disque, je suis trop bien, il faisait nuit, je me sens très bien de la sensation de cette soirée. Et le lendemain, j'arrive en cours et un prof qui dit je ramasse les versions, c'était en anglais. Et je me dis, ah ben non, en fait, le seul soir que j'avais de peinard, en fait, c'est juste que j'avais oublié de noter qu'il y avait un truc à faire. Mais en fait, c'est des années, c'était fait pour ça, quoi, pour que tu puisses jamais avoir du temps pour toi. Et donc, moi, comme j'étais pas bon, je ramais pour avoir la moyenne. Bref, j'arrête au bout d'un an. Et là, je vais à la fac. Et ce qui était bien, c'est que d'avoir fait cette prépa, ça m'a permis de faire la fac un peu en roue libre, d'avoir une méthode de travail qui me permettait de faire plein d'autres trucs. Et là, j'ai intégré une troupe de théâtre... de la fac et qui était super en fait, ou dans laquelle j'ai toujours, tu vois, encore aujourd'hui j'écrivais à des gens qui étaient dans cette troupe. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Emmanuel Noblet, qui a joué l'adaptation de Réparer les vivants, un livre de Maïdé de Kerengal, qui a eu un Molière pour ça. Mais c'est un peu miraculeux, tu vois, ils ont tous fait du théâtre alors qu'on était tous à faire des études d'autres choses et que c'était la troupe amateur, tu vois. Mais en fait, ils étaient tous vraiment bons et du coup on a eu assez vite une sorte de petite réputation. On était un peu des petites vedettes du campus. On allait en cours. Enfin, moi, j'allais en cours. Il y avait toujours une fille qui disait « Ah, je suis venu voir le spectacle hier, c'était super. » Et tu vois, c'était très particulier comme rapport, quoi. Tu t'assistes à des cours, t'es étudiant et t'as des gens déjà qui te parlent d'un spectacle que t'as fait. Et ça, c'était génial. C'était des grands, grands souvenirs.
Un peu comme si t'étais quarterback aux États-Unis, quoi, tu vois.
Ouais, t'as raison. Oui, c'est ça. Le truc que tu fais cette étudiant et grande vedette. Bon, c'était vedette de la fac de Rouen. Hein.
J'ai vu aussi sur Wikipédia que t'avais fait un travail sur le cinéma de Truffaut, c'est ça?
En maîtrise, en fait, si tu veux. J'avais envie de faire un truc sur Truffaut. J'étais en lettres, donc il fallait trouver un axe pour ça. Et puis j'avais un prof qui a accepté, qui était sympa, qui était assez ouvert. Et donc ça consistait à dire en quoi le cinéma de Truffaut était littéraire, parce que la moitié des films de Truffaut, c'est des adaptations de bouquins. Il y a beaucoup de présence de l'écrit, il y a beaucoup des personnages qui s'envoient des mots, des personnages qui écrivent un livre dans les films. Enfin voilà, ça comptait beaucoup pour Truffaut, tout ça. Mais c'était une super année, parce que là, je me sens en maîtrise, je crois que tu as 3 heures de cours, et tu dois rendre ta maîtrise en fin d'année, donc c'est vraiment l'année où j'ai fait cette maîtrise, assez bien, enfin je veux dire assez sérieusement, mais je faisais quand même beaucoup beaucoup de chansons dans mon coin de théâtre, parce qu'en fait ce truc c'est que c'est vis-à-vis de cette bande, ils savaient que je faisais du piano et des chansons, mais je les montrais pas trop, mes chansons, parce qu'il y avait un autre mec qui était affilié à cette bande, mais qui était pas directement dedans, mais qu'on connaissait, qui lui avait la technique inverse, qui se baladait partout avec sa guitare, arrêtait pas de dire qu'il avait des contacts avec des maisons de disques à Paris, enfin vraiment le kéké quoi. Et je me souviens qu'il y avait des filles qui disaient ouais, en fait on était là à la soirée où il a créé l'intro de cette chanson là, enfin tu vois, le mec il se mettait un peu en scène, tu vois. Et je me disais ah non, mais faut surtout pas faire ça, faut vraiment faire le truc dans ton coin, puis quand t'es prêt tu ressors. Mais tu vois, exactement, ça rejoint le truc de l'enfance où tu dis je prépare mon spectacle dans mon coin. Et c'est toujours une idée mentale que j'ai quand je me dis si j'ai un nouveau concert à écrire, un nouveau spectacle à faire, je m'enferme et j'aime bien être dans cette situation très soit enfantine, soit en tout cas amateur, du mec qui n'a aucun contact avec personne, qui fait son truc vraiment de son côté. Et évidemment qu'après, avec la chance que de faire ce métier depuis plusieurs années et tout, dès que c'est fini, tu peux en parler à tel technicien, à tel mec qui va t'aider pour les vidéos, et puis ça va très vite ensuite. Mais ce noyau de départ de solitude, il est vachement important pour moi. Et je collabore jamais.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. De cette là, tu travailles vraiment.
Je collabore jamais. Je veux dire que les gens qui me disent ouais, on pourrait écrire un scénario à quatre mains, ou non, mais plutôt mourir quoi. Parce que moi, ce que j'adore chez les autres, pas chez moi, c'est qu'il y ait des défauts, tant pis, mais que ce soit vraiment la personne. Et que je me dise, je vois un film, je me dis, ah bah ça me dit vraiment un truc de cette personne. Et quand j'écoutais un disque de Barbara, je regardais la photo sur la pochette, je me disais, putain, mais ça c'est vraiment elle, quoi. Et c'était. C'est une impression que j'aime beaucoup avoir et qui fait que, en chanson, j'ai quand même tendance à préférer les gens qui écrivent eux-mêmes leurs chansons, par exemple.
Ok. C'est intéressant. De ce fait-là, tu ne veux pas aller chercher chez d'autres, par exemple. C'est...
Bah,
même avec le
en
temps.
En tout cas, des textes, non.
Ok.
Ouais. Ouais. Pour les musiques, c'est autre chose éventuellement, mais non, en fait, parce que du coup, tu creuses autrement, tu vois, tu collabores d'une autre manière. C'est-à-dire que là, tu vois, sur le dernier album, j'ai donné toutes les mélodies à différents artistes, et du coup, ça fait un truc même qui était assez potentiellement assez piégeux, parce que sur un disque, tu essayes d'avoir une unité, de dominer un peu la couleur de l'album en général. Donc, mais par contre, oui, sur l'impulsion de départ. Je crois pas au fait de se réunir à deux ou à trois dans une pièce et de se dire, bon, de quoi on va bien pouvoir parler sur cet album? Ah ouais, ce qui serait super, c'est, tu sais, les fois où tu fais ça, nanana. Parce que là, sinon, pour moi, c'est un peu comme des sujets de stand-up. C'est-à-dire, c'est un peu, tu vois, les mecs de stand-up, c'est jamais, ça peut être marrant leur sujet, mais c'est toujours, pour moi, il n'y a pas de style la plupart du temps. Okay. C'est-à-dire que c'est l'info brute. C'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans un restaurant, et puis que nanana, ou je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va, à chaque fois que je vais à la boulangerie, ou que je vois mon ex, et en fait, j'ai l'impression que ça commence toujours par, je sais pas si vous avez remarqué, quoi.
Oui,
et tout le but, évidemment, que c'est important de trouver des moments qu'on a tous traversés et tout ça, mais il faut quand même arriver à les mettre en forme avec, si possible, un truc un peu élégant, ou avec un angle, en tout cas, tu vois. Et ça, c'est, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui passe par le fait d'être un peu solitaire. Ouais.
Ok, je comprends.
Ouais, c'était sympa.
Non, mais je...
Non, mais c'est vrai.
Je
vois que tu comprends.
Je vois bien l'idée.
Je pourrais avoir des grands yeux et dire bonjour, je comprends pas.
Non, mais en fait, le truc qui m'intriguait un peu, c'était de me dire voilà, ça fait toute cette année que tu es dans le métier et peut-être en fait, tu as
pu rencontrer des gens avec qui tu avais justement envie de collaborer et de partager des choses, quoi, tu vois. Mais je...
Ah oui, mais là, je me fais l'avocat du diable de la solitude. C'est-à-dire que... parce que moi, je collabore beaucoup, au contraire.
Oui.
Tu vois, que ce soit sur la mise en scène des spectacles, j'ai fait Memory avec Macha Makayev.
Oui.
J'ai fait spectacle d'examen parallèle avec Aurélien Bory. L'année prochaine, on doit écrire un spectacle à deux avec Johan Bourgeois, mais c'est un type d'écriture particulier parce que lui, c'est pas quelqu'un qui crée des textes, c'est un chorégraphe qui met en place des spectacles.
Donc là, c'est plutôt un truc complémentaire, quoi, c'est ça?
Ouais, mais j'en fais beaucoup parce que je fais aussi tous les trucs de photos, quand tu fais la BO pour un film, là, tu vois, j'ai des BO à faire cette année. Et ça, c'est des trucs que tu fais évidemment avec d'autres gens, mais je parle vraiment de ce petit caillou de départ.
Ouais,
et j'ai d'autant moins peur d'essayer de le trouver seul. D'autant moins peur d'essayer de le trouver seul que je sais que par la suite, il y a cette équipe-là qui va travailler sur le spectacle. Mmh. Je vais bosser à la vidéo avec des mecs que j'adore, qui sont très bons. Et voilà.
Alors justement, tu parlais de vidéos et de photos, je te parlais de Truffaut tout à l'heure, parce que j'aurais bien aimé recouper sur ton intérêt particulier pour l'image, qui est quand même pas un truc très...
Recoupe.
Très courant, n'est-ce pas, chez les artistes musiciens. T'as une vraie affinité, ça te vient d'où en particulier, cet intérêt
pour
l'image?
Écoute, c'est vraiment venu du fait que je voulais que dans les spectacles, il se passe d'autres choses que les chansons. Donc il y a des fois, ça peut être des trucs, des textes que je vais dire en plus des chansons, ça peut être... mais c'est vrai que la vidéo est quand même souvent ce qui te permet de mettre en place... c'est un peu comme le piano. Le piano, je trouve que c'est un instrument que j'ai choisi aussi parce qu'il peut t'amener un truc vraiment très mélancolique, très profond comme ça, et un truc très léger aussi, et ce qui est plus difficile à obtenir quand t'es tout seul avec une guitare, par exemple, parce que t'as pas ce même... Ou alors, il faut vraiment être une brute totale et le meilleur guitariste du monde pour y arriver. Et en vidéo, c'est pareil. Tu peux des fois renforcer vraiment un truc assez beau, assez photographique, assez que tu veux un peu classe. Et à d'autres moments, faire un truc qui est beaucoup plus pour faire marrer. C'est le cas dans le dernier spectacle, tu vois, où régulièrement, j'ai mon personnage qui arrive sur l'écran, qui fait un deuxième piano, ou qui fait une petite danse, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est quand même super. Et ça oblige aussi à penser tes spectacles vachement tôt, à mettre de côté des choses. Et puis après, bah, c'est un plaisir parce que tu fais des concerts qui ont tous une identité différente d'une tournée sur l'autre. Les gens te remercient beaucoup de ça quand même parce qu'ils disent oh, putain, le mec il s'est quand même fait chier. et toi, de l'intérieur, t'es heureux parce que tu retrouves ce comme une sorte de petite maison à toi partout où tu vas, où t'emmènes le spectacle. Et puis le spectacle est marrant à faire, tout simplement. Parce que tu sais que justement, à tel moment, tu vas avoir un levier à la quatrième chanson qui te permet de passer un cap dans la relation avec la salle, et que si jamais à ce moment-là ça n'a pas vraiment pris comme tu voulais, bah t'en auras une autre occasion dans trois chansons. Enfin, tu vois, t'as ce truc-là comme ça, et jusqu'au bout, tu peux aller chercher les gens, et ça c'est hyper agréable à ressentir. Ouais.
Je reviens sur ton parcours, donc, parce que tu vois,
mais
je crois qu'il
reste bien, mais c'est bien que tu sois comme
c'est,
ça cohérent.
C'est très important de garder un peu une chronologie.
Mais, oui,
mais comment tu fais pour, une fois que tu as terminé tes études, basculer de « Ok, en fait, je fais du piano, donc j'ai bien compris que tes mélodies, etc. » jusqu'à j'ai mon premier album, quoi.
Ouais, alors
tu
là,
commences
oui.
pendant quelques années, c'est ça, déjà.
T'as raison, là, il y a un petit saut dans le vide, là. Écoute, moi, mon premier album, il est en 2002, et les premières fois que je fais vraiment un spectacle devant des gens, avec mes chansons et tout ça, c'était une première partie, ça devait être en 97, donc c'est pas si loin que ça, mais en même temps, ces 5 années, quand à cet âge-là, c'est long.
T'as quel âge? T'as 22 ans, c'est ça, à l'époque?
Moi, je suis 76, donc en 97, j'avais 21 ans.
Ouais.
Et là, donc tous les gens de ma bande assistent à ce truc-là, me disent « Oh la vache, on t'a pas vu venir
». Tu gardais tes trucs pour toi.
Ouais,
donc,
voilà, c'est vachement bien, tout ça. Donc c'était même marrant, parce qu'ils avaient tous la cassette en public. Enfin, je me souviens vraiment de cette... voilà.
Ah, t'avais enregistré le...
Ouais, à l'époque, tu sais, ça se faisait souvent... Tu faisais un concert, le mec de la sono, il t'enregistrait sur une cassette.
Mm-hmm.
Il y avait ça sur les premières émissions de radio aussi. Bon, bref, vraiment, nous étions au XXe siècle. Et là, en fait... À Rouen, je voyais bien que ça allait pas. Je trouvais pas d'occasion, en fait, de jouer vraiment dans des boîtes à chansons, des trucs comme ça. Et il y avait quand même ça à Paris. Il y avait des trucs, des cafés ou qui faisaient des auditions. Donc j'y suis allé. J'ai fait ça de temps en temps. Et au bout d'un moment, j'étais repéré par un mec qui avait joué dans une salle à Paris qui s'appelait Les Déchargeurs, qui est un petit théâtre vers les Halles, rue des Déchargeurs, qui a une salle à l'étage qui est donc la grande salle, qui doit faire 80 places, ou 120, et là, une salle dans une cave avec un piano droit, mais qui est très bon. Et lui, il me dit, je suis passé l'an dernier dans cette salle, mais du coup, je voulais la refaire, mais mes potes, ils vont peut-être pas se déplacer pour moi tout seul, donc j'ai entendu que tu chantais des trucs, est-ce que tu veux la faire avec moi? Donc on a fait ce truc-là. On faisait, je pense, une heure. Et l'année d'après, alors, je sais pas, ça devait être en 2000 la première année, l'année d'après, à la même saison, j'ai loué la salle, mais pour moi tout seul, tout seul. Et là, je passais tous les mercredis pendant peut-être 2 mois.
T'arrivais à remplir?
Oui. À la fin, c'était carrément la folie. Il y avait au moins 43 personnes et c'était. C'est-à-dire que les gens, du coup, étaient assis dans l'escalier. Enfin, c'était en surjauge. Je me souviens très bien qu'ils utilisaient cette expression. Et que...
Comment t'avais fait pour créer un public?
Parce que c'était. Bah, là, ça s'est fait un peu par bouche à oreille. C'est et internet, parce que François Morel, je lui avais envoyé une maquette de mes chansons parce que j'avais vu qu'il parlait de chansons, qu'il aimait bien ça. Et il m'avait rappelé. Alors, j'étais encore à Rouen, là. Il m'avait laissé un message sur mon répondeur en disant. Bonjour, je m'appelle François Morel, vous m'avez envoyé votre disque et je vous aime beaucoup. C'est que ce message, je l'ai gardé très longtemps, je l'avais enregistré puis après je l'ai paumé. Et il m'a proposé de passer dans une émission à laquelle il participait à France Inter et qui a vraiment suffi à ce que la petite salle se remplisse et tout ça. Il y a eu un bouche à oreille qui s'est fait. J'ai pu inviter Vincent Frerbeau aussi qui dirige la maison disque Outard, qui était un label qui me faisait vachement rêver. Quand j'étais étudiant, parce qu'il y avait plein d'artistes que j'aimais qui étaient là, qui étaient aussi un peu à la croisée des chemins, parce qu'à ce moment-là, t'avais d'un côté toute une scène un peu, comment dire, un peu, je sais pas, cabaret ou accordéon, contrebasse, piano, un peu poussiéreuse quand même, un petit peu parfois, et puis des trucs très très produits. Et je trouvais que chez Tôt ou Tard, ils avaient des gens qui étaient Thomas Fersen, Franck Monet, Lassa, qui étaient dans une sorte de tradition. Ou Dick Hanegaard avec les arrangements de Joseph Rakai, tradition plutôt chanson, mais toujours hyper classe les arrangements, assez modernes et tout ça. Et j'étais les seuls à être sur cet équilibre-là. Donc je voulais aller chez eux. Et puis à force d'en parler, il a entendu, il est venu voir le spectacle. Et après, on m'a fait faire les premières parties de Thomas Fersen à la Cigale pour un peu vérifier que ça se passait bien, que les gens m'aimaient bien. J'étais pas signé à ce moment-là. Mais par contre, j'ai été signé très vite, une fois que les premières parties, on les a faites. Ouais.
C'est toujours ton label aujourd'hui.
Et ouais. Ça, c'est pas rien. Hein, parce que...
T'étais resté fidèle.
Bah, et eux aussi, surtout eux, parce qu'ils auraient pu me jeter. Hein. Mais c'est sûr que je crois beaucoup à ça, et évidemment, c'est comme un couple. C'est-à-dire que sur le papier, c'est génial d'être ensemble depuis longtemps, mais ça fait aussi qu'il y a des moments où c'est moins simple, où tu te poses des questions. Et par contre, c'est vrai que quand t'arrives à tenir, c'est génial parce que tu. En fait, aujourd'hui, je suis le plus ancien du label. Il y a Mathieu Bogart aussi qui est entré en même temps que moi. On est les deux plus anciens. Et bah, tu vois, je t'en parle, ça me fait ça. Parce que.
Ça te fait les poils donc pour.
Ouais, pour les gens qui écoutent le podcast. Ouais, parce que. Bah, parce que j'ai rêvé d'être là, parce qu'il y avait tout plein de gens que j'adorais. Donc. Qui des fois eux ont quitté le label, mais pour des hasards aussi, dans le cas de Lassa parce qu'elle a disparu, et puis pour les autres parce qu'ils ont des fois changé de maison de disque, mais voilà, c'était vraiment mon rêve et c'était un truc que j'avais en tête. Ouais, je suis assez constant dans ce que j'aime, dans tu vois, tu me ferais écouter genre je sais pas une après-midi entière de ou une semaine entière d'écoute de ce que j'écoutais à 19 ans, je vais pas te dire, je te dirais pas, ah non, mais je supporte plus du tout ce truc-là. Il y a plein d'autres choses que j'ai appris à aimer par la suite et à rajouter. Mais il y a quand même un fond de, les choses que j'ai aimées, je les aime toujours, ouais. Y compris des trucs, en me disant, bon, bah, ça quand même, c'est un peu limite, mais j'ai une tendresse pour ça, ouais.
Mais comme quoi, par exemple?
Bah, comme, AA. Par exemple, qui est un groupe que j'aime toujours bien, finalement. Tu vois, si tu. J'ai écouté leur Unplugged récemment, que je trouvais assez bon.
Ouais.
Non, mais tu vois, c'est. J'ai toujours eu du mal avec ce truc des gens qui ne supportent pas de voir leur ancienne coiffure, leur ancienne chemise sur une photo. Bon, bah voilà, ça fait partie d'une histoire.
Ok. Non, bah, c'est pas si j'ai mature, mais ok.
Ah, tu rigoles?
Non, vas-y.
Attends, regarde, tu vois, les gens, ils disent. Ah, là, tu leur brandis une photo d'eux à 17 ans, et ils disent, ah non, mais c'est. C'est affreux comment j'étais coiffé, comment, enfin, bah oui, c'est normal, les modes elles changent Mais c'est sûr que moi, ça m'a toujours vachement parlé, le rapport au temps. Pas du tout dans l'idée de toujours ressasser le passé, mais dans l'idée de se poser tout le temps la question, à tous les âges de ta vie, où est-ce que t'en es, quelle est ta trajectoire, et d'où t'es parti pour en arriver là. C'est ce qui donne de la valeur, en fait. Par exemple, tu parlais de ça, d'être toujours dans cette maison de disques-là.
Je voulais te parler de tes albums live aussi, et notamment de cet album où tu reprends des chansons avec des artistes, qui, en plus, si je me trompe pas, en plus, c'est Les gens qui doutent de Barbara, qui est ta chanson la plus écoutée sur Spotify. Je sais pas si tu savais ça, mais...
C'est pas de Barbara, c'est Dan Sylvestre.
Oh, Dan Sylvestre, pardon.
C'est assez bizarre ce truc-là d'ailleurs. Bon, après, ça passera.
De quoi?
C'est drôle. Bah, que ce soit la plus écoutée, c'est quand même très curieux. C'est une chanson que j'ai chantée une fois dans ma vie, ce soir-là.
Mais que t'as transformé en.
Oui, en fait, pas tout seul, c'était avec Jeanne Chéral et ouais. Albin de la Simone. Mais après, c'est ce concert-là, c'est ce qui était marrant, c'est qu'on avait. Fait 15 soirs de cigales, et donc il y avait un invité tous les soirs différents. Et en plus, on était 6 musiciens sur scène, donc c'était à chaque fois, il y avait une sorte de. On bossait l'après-midi, le titre, et. Mais c'était un gros truc à mettre en place. Et après, on a tout réuni, et ça donne l'impression, en fait, que ça a été fait sur une seule soirée, mais c'était vraiment. Ça s'est fait soirée après soirée. Et le truc qui était bien, c'était qu'à chaque fois, l'invité arrivait très tard, genre sur les rappels. Donc à un moment donné où tu te dis pas qu'il y aura un invité, ouais. Donc c'était toujours un peu une bonne surprise. Et je me souviens comme ça de Souchon qui arrive sur. La rumba dans l'air et qui était vraiment, je sais pas, il était vraiment assez tard quoi. Et en plus il rentre, on était tous en costume parce qu'on est, donc on revient de rappel et on est tous en costard, tous les musiciens avec une coupe de champagne à la main. Bon, les gens se disent tiens c'est un petit effet qu'ils font, c'est marrant. Là, là. On commence la chanson et lui, bing, il rentre alors qu'on a déjà commencé et il est aussi en costard avec une coupe de champagne à la main. Donc c'était énorme quoi, la déflagration, le bruit que ça a fait dans la salle, c'était trop bon parce que les gens jamais ils pouvaient penser que voilà quoi, qu'il y avait un mec qui allait arriver de cette façon. Donc tout ça c'est des gros souvenirs, évidemment plein d'anecdotes sur chaque invité, ceux avec qui c'était pas génial parce que c'était très fragile aussi souvent comme on faisait le truc qu'une fois en public, oui. Tu vois, il y avait pas, tu pouvais pas te dire bon bah c'est pas grave, on prendra la prise de demain. Donc mine de rien, c'est quand même un album qui réunit, je sais pas, il doit y avoir 15 chansons qui ont toutes été jouées une seule fois de cette manière-là, qui ont été répétées, mais ça s'est fait quand même pas mal à l'énergie du moment. Ouais.
Mais c'est ça que t'aimes en même temps. C'est
parce ouais,
que
j'adore.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est sûr. En fait, quand ça passe, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que tu te donnes à ressentir un truc qui est très, très lié à la vie. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le film que j'ai fait. Ça comptait beaucoup pour moi qu'on soit pas là à tout baliser sur les moments de tournage en termes de bruit environnant ou de lumière dans la. On se dit, bah non, on s'adapte à. On prend ce qu'on nous donne ce jour-là, ce que la météo va nous donner, ce que la rue va nous donner, tu vois. Et ça, c'est sûr que quand tu arrives à bosser de cette manière-là et à trouver des gens surtout qui sont d'accord pour bosser comme ça, c'est génial.
Tu viens de balancer là comme ça, l'air de rien, que tu avais fait un film ?
Mais oui, absolument. Mais c'est vrai
sans
que
aucun contexte.
Le film était. Ça m'y faisait penser vraiment parce que c'est clair qu'il a été fait dans cette énergie-là.
Ouais. C'était un docu donc, c'est ça.
Mais là, on n'est plus tout dans la chronologie là du coup.
Putain, ouais, c'est pas grave, c'est parce que tu vois, on digresse, on revient,
ah, okay,
on revient.
Okay, okay. D'accord, ça va alors.
C'est pas si grave quoi, tu vois.
Ça va alors. C'est un mois de. Ouais, si on devait dire. Entre pas du tout documentaire et documentaire, ce serait quand même plutôt documentaire. Parce
ouais,
qu'il y a des vrais témoignages, des gens que j'ai interviewés. Mais après, ce qu'on en a fait, c'est comme une sorte d'exercice de construction à partir de matière documentaire. Donc, pour schématiser, on a. Ce film, au départ, ça n'était pas un documentaire. C'était une histoire suivie, un garçon et une fille qui se rencontrent dans un musée, qui assistent à plein de d'installation plutôt d'art contemporain. Il y a une forêt en vidéo, donc c'est prétexte pour le mec à raconter qu'il vient d'un coin où il y a une forêt. Ils ouvrent une porte, il y a Jean Rochefort qui fait une conférence dans une salle et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment, je me suis dit mais en fait c'est un peu bidon mon truc de voir relier toutes ces séquences par l'idée d'un garçon et d'une fille qui se rencontrent, qui vont avoir une histoire d'amour. Donc un peu bullshit, donc laissons tomber ça et faisons juste un télescopage de personnages. Donc en fait dans le film tu te branches sur des gens pendant 3 ou 4 ou 5 minutes qui te disent quelque chose d'eux. Des fois c'est un texte que j'ai écrit et qu'ils ont dit, mais la plupart du temps c'est des vrais témoignages, mais ça se mélange un peu quoi. Et en général, évidemment, on essaye de le moins possible, ça, à part sur Aloïs Sauvage, c'est très rare qu'ils soient filmés en train de parler. Ils sont, on entend leur voix qui raconte quelque chose et on voit autre chose d'eux, ou même carrément des plans qu'on on les voit pas, mais qui sont pas une illustration de ce qui est dit, mais plutôt un truc qui complète et qui t'emmène un peu ailleurs et qui oriente un peu ta manière de voir les choses.
C'est des témoignages assez intimes en fait de personnes qui racontent un bout de leur vie comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tendre le micro à ces personnes-là, toi qui es plutôt du genre à écrire des trucs plutôt.
Ouais, mais là, c'est vrai que t'as raison, c'est intime. Alors, c'est pas intime dans le sens qu'ils vont te raconter un truc irracontable et tout, mais plutôt dans le sens que ils vont aller sur une zone qui est la zone où tu vas pas parce que tu te dis, bah, y a que pour moi que ça compte ce truc-là, tout le monde s'en fout. Et ça, en fait, ce qui m'a fait aller là, c'est que par tempérament, c'est quelque chose que j'ai toujours eu quand je passe du temps avec les gens. J'arrive toujours à leur soutirer, enfin en tout cas à repartir en ayant quand même appris des trucs sur eux de cet ordre-là, parce que ça m'intéresse pas beaucoup de savoir ce qu'ils font à leur boulot ou la promotion sociale, ou enfin ça m'intéresse plus de savoir comment ils réagissent à des choses ou comment ou je sais pas, ou s'ils sont saoulés par leurs collègues de bureau, tu vois, mais c'est plus de cet ordre-là, de sur le ressenti et sur nos sensations, nos émotions et de mettre un peu les pieds dans le plat de ce truc-là. Donc ça, je l'ai souvent fait.
Et comment tu fais ? Les gens sont un peu mal à l'aise ou ?
Ah non. Okay. Ah non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Parce que juste, tu... Bah, c'est, je sais pas, que c'est pas vraiment une technique. Hein. C'est juste que c'est déjà du temps que tu investis avec les gens. Ouais. Parce qu'effectivement, si tu passes que 20 minutes, ça n'arrivera pas. Mais tu rentres, tu t'intéresses à eux. C'est-à-dire que si tu t'intéresses vraiment, que tu rebondis sur le truc qu'on te dit, ah bon, mais c'est marrant de dire ça, parce qu'en général, les gens qui disent ça, c'est plutôt des gens qui sont comme ci ou comme ça. Très vite, tu arrives à pas forcément cerner la personne pour la cerner, mais en tout cas, à discuter et à partir sur des sujets qui sont pas forcément ceux qu'on aborde généralement le plus souvent. Donc, en faisant le film, j'avais cette impression aussi que des fois, je récoltais des choses et je me disais, ça c'est chouette pour les gens, parce que c'est dans le cas des gens identifiés comme Souchon ou Rochefort ou Vincent de Dienne, c'est pas forcément ce qu'on entend d'eux d'habitude.
C'est intéressant.
Donc, okay. Je te remercie, j'aime bien que tu dises ça.
Non, mais en fait, je pense que d'une manière générale, après c'est un peu un cliché, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'artistes qui avaient plutôt besoin de parler, ouais, et de dire des choses, et que c'est assez rare les artistes qui sont capables d'écouter correctement. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais c'est ce qui fait que d'ailleurs, que quand t'es en fin de tournée, t'as vraiment besoin de... En tournée, t'as du mal à écrire, par exemple, parce que tout tourne autour de toi, quoi. C'est-à-dire qu'on te parle de tes spectacles, les gens font gaffe à toi, de t'accueillir bien à la gare, de te demander si t'as tout ce qu'il te faut dans ta loge. Donc c'est un peu une vie qui tourne sur ta tronche, quoi. Donc c'est pas très constructif, cette phase-là. Enfin, c'est super, hein, pour d'autres raisons, parce que c'est super de faire les spectacles, mais c'est une phase où t'es pas très moins ouvert, quoi. Enfin, quoi qu'avec les années, justement, tu t'obliges à être autrement. Mais les premières années, tu vis le truc à fond pour toi, et voilà. Mais finalement, le mécanisme, il a été le même pour moi, parce que c'est-à-dire que dans mes chansons, je pars de moi, d'un truc que j'ai ressenti, en me disant, je sais pas si les autres, ça leur fait pareil, mais moi, ça me fait ça. Et là, j'ai fait la même chose pour le film, mais avec d'autres gens, c'est-à-dire, en me disant, tiens, eux, ils ressentent les choses comme ça, je sais pas si c'est un truc qui est, je sais pas si c'est tout le monde, je sais pas si c'est partagé par d'autres. Mais c'est la même mécanique, en fait. Voilà, c'est juste pas le même matériel de départ.
Tu racontais aussi que tu avais des BO d'albums à faire, là, cette année.
Oui.
Comment t'as avancé? Comment tu t'es retrouvé à faire des BO de films comme ça? Et qu'est-ce que ça donne comme exercice particulier par rapport à l'écriture d'un album, par exemple?
En fait, tu vois, l'année dernière, par exemple, c'était vraiment l'année qui te pressurise, mais où tu te colles une pression tout seul aussi. Parce que je voulais finir ce film, parce que je voulais faire un album et un spectacle. Donc c'était trois temps qui sont un peu tous les trois casse-gueule, parce que le film, tu fais un peu le malin de dire, tiens, j'ai fait un film, regardez, faut quand même que ça tienne un peu la route. Et puis t'as aussi cette pression positive des gens qui disent, de toute façon, vous, à chaque fois, moi j'adore. Donc évidemment, j'échangerai ça pour rien au monde, c'est super qu'on vienne te dire ça. Mais quand même, il y a un moment où t'es dans la rue, où les gens viennent te dire, moi j'ai déjà mes places pour La Cigale, et toi tu sais même pas encore ce que tu vas chanter là-bas. Et ils disent, de toute façon, ça va être super, parce qu'à chaque fois c'est super. Et tu dis, attends. C'est un peu. Donc voilà. Donc l'année dernière, c'était un peu ça, et c'était le moment où forcément, t'y peux rien, même si c'est. Tu sais que tu peux te déchirer sur un disque, que c'est pas ça qui va faire que tu disparais du jour au lendemain, mais quand même, t'as pas trop envie de louper ton tour là-dessus. Parce que après, tu joues tes chansons pendant un an et demi en tournée, parce qu'elles t'accompagnent, parce que c'est ça donne aussi à, quand même le pouls un peu d'attente de là où t'en es dans ton parcours, quoi. Tu vois, le fait de, à la fois de, d'avoir une forme de constance par rapport à des choses que t'as pu faire et d'avancer, de collaborer avec des gens différents, d'avoir une couleur de son différente. Et là, là, on est dans l'année 2020, c'est l'année hyper relax là-dessus. Parce que, bah évidemment, il y a le spectacle à jouer, mais il est déjà écrit, donc il faut juste être un peu en forme et être à ce que tu fais. Et après, tu peux justement être dans des collaborations, faire une BO, faire des choses comme ça, qu'il faut réussir aussi, et pour lesquelles tu travailles tout autant. Mais où tu as moins ce truc de les yeux ouverts au plafond la nuit, te dire « Oh là là, si jamais ma BO elle est ratée, c'est la catastrophe. » Tu réfléchis pas comme ça. Et tu as plus de place. Tu vois, j'adore faire de la photo. J'ai pu ressortir plein de photos argentiques que j'avais mises de côté pendant un temps parce que c'était pas le moment. Donc tu peux faire tous les side projects un peu cette année. Donc ça, c'est vraiment super. Et le BO, j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, mais là, du coup, ça s'est un peu déclenché parce que la première était à fonctionner un peu. Et puis c'est agréable parce que tu rentres dans la logique de quelqu'un, d'une esthétique de film, d'essayer justement, un peu ça rejoint ce qu'on disait sur le fait d'essayer de comprendre les gens en discutant. Tu essayes de renifler quelque chose, quoi, tu vois, et de t'aligner parce que ça n'a pas de sens. Moi, je vais pas faire une BO en me disant, en tout cas, je veux faire passer exactement mon style de Vincent Delerme et tout ça, non. Ton style, malgré toi, il sera toujours un peu là, quoi que tu fasses. Et par contre, après, tu essaies de rejoindre l'envie de la personne qui a fait le film. Ouais.
Merci beaucoup, Vincent.
Badi, je t'en prie.
On a fait le tour, c'était bien. On a fait quelques ellipses, hein, tu vois, mais on a parlé de plein de choses, c'était super.
De quoi ? Qu'est-ce qu'on aurait oublié dans mon cursus ?
Qu'est-ce qu'on aurait oublié ? De quoi que tu voudrais parler dont je ne t'aurais pas parlé, par exemple ? On a parlé très rapidement de Memory. C'est un moment marquant un peu pour toi ou pas ?
Ah oui, hein ? Oui, c'est un moment de bascule un peu parce que c'est un moment où j'avais fait 4 albums studio à ce moment, ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais apparu. Et les premières années, alors que tu vois, on en a parlé, je venais du théâtre et je me disais, tiens, j'aimerais bien mettre ça dans mes spectacles. Je m'autorisais pas trop le truc. Je me disais, non, attends, t'es chanteur, fais pas le malin. C'est un peu velléitaire de vouloir tout montrer, nanana.
C'est très français, ça, tu vois, de te dire.
De se censurer.
Non, j'allais dire d'être dans une case et de pas en sortir.
Oui,
quoi.
Oui, sans doute. Et puis, en fait, mes spectacles, au fur et à mesure, je mettais de plus en plus une part grande, comme ça, de choses un peu plus théâtrales ou vidéo. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un spectacle qui va inverser la proportion. Ce sera à 80%. Du théâtre et un spectacle, et puis il y aura juste quelques chansons en plus. Et c'était aussi pour que faire quelque chose où les gens sont obligés de l'avoir vu pour en parler, parce que c'est le défaut des chansons, c'est leur force aussi, c'est que tu peux très vite avoir un avis, les entendre comme ça et te dire oh j'aime pas ou j'aime bien ou je trouve ça. Et évidemment quand tu fais un spectacle, ça peut pas être comme ça, les gens peuvent pas dire oh Memory c'est nul, je l'ai entendu 2 minutes à la radio, non ça marche pas. T'es obligé de venir, donc c'était important et en fait le fait que les gens soient beaucoup venus alors que c'était il y avait pas de chansons, il y avait pas d'album qui correspondait, que c'était un truc où c'était impossible de comprendre, en plus moi dans ma communication j'étais quand même pas clair sur ce que c'était, enfin c'était pas facile à raconter et à vendre tout simplement, et bah du coup ça a ouvert vachement les choses pour la suite, c'est-à-dire que je sais qu'à tout moment je peux proposer un truc un peu à faire un pas de côté et ça, c'est vrai que dans mon parcours, du coup, ça a été un moment précieux et que tu as bien fait de me relancer sur Memory.
D'où le film, donc, c'est ça. C'est-à-dire que
oui, le film, ça fait partie.
T'autorise à être réel.
Ouais, ouais, c'est sûr. C'est après la condition pour ça, quand tu veux faire des choses un peu différentes et en dehors de ton cœur de compétences qui reste la chanson et qui restera toujours la chanson pour moi. C'est qu'il faut quand même faire ça sérieusement, quoi. Si tu le fais un peu en disant ouais tiens ça va être marrant, je vais faire une pièce de théâtre ou ah oh, tiens je vais faire un film, là du coup ça peut devenir une boucherie parce que tu te fais épingler par tout le monde se dit mais pour qui il se prend. Mm-hmm. Donc à chaque fois faut quand même que tu t'y consacres vraiment, mais c'est hyper agréable à faire.
Il y a un dernier truc dont je t'ai pas parlé, c'est de tes collaborations avec Jean Rochefort notamment. Mm-hmm. D'où te vient cette appétence avec ce fabuleux monsieur ?
Ben Jean, je lui avais écrit une lettre quand j'ai fait mon troisième disque, c'était en 2006, pour lui demander de jouer dans un clip qui s'appelait Sous les avalanches. Et je lui avais dit, par contre, il faut être en chemise hawaïenne, il faudrait que vous fassiez semblant de jouer de la batterie, vous aurez des tongs aux pieds, oui, pas de problème. donc je faisais un coup de fil avec lui, c'était dans une chambre d'hôtel à Toulouse en tournée, où je lui demandais ses mensurations. Il me dit... Ma femme me dit, je connais tes mensurations, mais d'autres choses. Enfin, c'était vraiment du Rochefort, tu vois, de pur jus. Et puis on a fait ce clip, c'était très 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 marrant, très gentil évidemment. Et après on s'est beaucoup revus, on a passé beaucoup de temps ensemble, et puis là, on a fait un projet pour enfants qui s'appelait Léonard, une sensibilité de gauche. Il est venu chanter à l'Olympia plusieurs soirées quand j'y étais passé, et surtout du temps chez lui, tu vois. Donc au point qu'il a beaucoup, on a souvent parlé de cinéma, qu'il m'a souvent dit il faut que vous fassiez un film, Vincent, vous êtes vraiment fait pour ça. Et le jour où j'ai fait le film, je lui ai dit bah ça y est, genre je fais un film, je sais que vous avez arrêté votre carrière, mais bon, si jamais. Il m'a d'abord dit non, puis après il a rappelé pour dire bah si, j'aimerais bien faire une dernière journée, que ce soit avec vous. Donc il est venu faire ce tournage, et c'était particulier parce qu'on savait que c'était sa dernière journée de tournage. Il n'arrêtait pas de le rappeler le jour du tournage, et donc il faisait des blagues avec ça, mais forcément il y a eu un moment donné où ça nous a quand même un peu étreint d'avoir la conscience de ça et de se dire il faut pas faire n'importe quoi quand même. Et c'était un cadeau incroyable, quoi.
Je suis un peu comme une filiation entre vous, je sais pas, il y a un truc.
Ah oui?
Ouais, ouais, de l'extérieur, là, comme ça, tu vois.
Écoute, ça me fait plaisir, je vais me laisser pousser la moustache, alors. Mais je sais que lui, il a beaucoup de choses, il nous laisse beaucoup de choses, et tu vois, il disait tout le temps, mon cher ami, on ne prend jamais de risque à prendre un risque. Et ça, c'est une phrase qui est importante, parce qu'effectivement, lui, il a fait beaucoup de premiers films, de trucs où il savait pas où ça allait, même avec nous, hein, dans le film, les plans qu'il a tournés. Il sait que c'est les derniers plans de lui, il a conscience de quand même de qui il est dans le paysage, et à aucun moment il te dit attendez Vincent, je voudrais quand même savoir comment vous allez utiliser ces plans, qu'est-ce que vous allez leur faire dire, tout simplement. Donc voilà, donc j'étais heureux de montrer le film à son épouse quand il a été fini et qu'elle l'aime bien.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était super.
Ah, alors ça va.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.